la grande histoire est faite de chair et de sang. Et la vie privée de ceux qui ont dirigé la France en dit autant sur leur époque et sur eux que leurs engagements politiques. On aurait tort ainsi de réduire la du Barry au rang de simple favorite. Bien sûr, le parcours de Jeanne Bécu, comtesse du Barry, devenue la dernière maîtresse du roi Louis XV, est des plus pittoresques. Mais son rôle auprès du bien-aimé, comme son goût raffiné, si proche des artistes de son temps, mérite mieux que la silhouette grossière qui en est parfois dessinée. Bien sûr, la comtesse du Barry n'a pas toujours porté le diadème, et beaucoup à Versailles ne cessent de lui rappeler qu'elle n'est que la fille d'une couturière et d'un moine paillard. On prédit une simple passade dans le lit du roi, jadis trop bien aimé, mais non. La du Barry s'incruste, puis s'installe dans le cœur du monarque. Voici donc l'histoire de cet amour hors du commun, l'histoire d'une femme qui va traverser le règne de Louis XV puis de Louis XVI jusqu'à la Révolution française avec fougue, audace et passion.
Vous écoutez Secret d'Histoire, Madame du Barry, coup de foudre à Versailles. Première partie.
Nous sommes au début de 1770 et depuis quelque temps, Louis XV ne s'éternise pas à table. Il a désormais une bonne raison pour cela. Plusieurs fois par jour, le souverain sexagénaire franchit cette porte et emprunte cet escalier intérieur pour se rendre auprès de sa favorite, Jeanne du Barry, de 35 ans sa cadette. Si leur liaison dure depuis un an, Louis XV a dû attendre longtemps avant de pouvoir l'installer juste au-dessus de chez lui, dans un appartement qui se trouve dans les combles du château. Conçu à l'origine pour sa belle-fille, la dauphine Marie-Joseph de Saxe, cet appartement est idéalement situé. D'un côté, il donne sur la cour des serres qui relie les appartements du roi. Et de l'autre, il possède une vue plongeante sur la cour de marbre, autant dire le cœur même du navire amiral de la monarchie. Ironie de l'histoire, c'est Monsieur de Marigny, le propre frère de l'ancienne maîtresse du roi, Madame de Pompadour, qui a été chargé de le mettre au goût du jour en tant que surintendant des bâtiments de France. Jeanne Bécu, comtesse du Barry, est l'une de ces beautés qui ne laisse personne indifférent. Je vous propose maintenant de partager sa vie intime avec le roi et de découvrir certains de ses secrets les plus troublants.
À 25 ans, Madame du Barry est l'incarnation même de la beauté.
Evelyne Levert, historienne.
C'est une grande femme mince.
Elle a un teint éclatant, on la remarque.
Une pâleur absolument admirable. On en recrue un nuage de lait avec des pétales de rose, disait-on.
Elle a un regard bleu avec de longs cils noirs.
Elle a des cheveux châtains qui virent sur le blond.
Elle avait de beaux seins, elle aimait les mettre en valeur.
C'est une véritable déesse, une beauté sensuelle qui intimide tous les hommes.
Pour envoûter le roi, Madame du Barry peut aussi compter sur son élégance, qui fait d'elle une des femmes les mieux habillées de son temps.
Elle est une des premières à porter des robes comme portera Marie-Antoinette, blanc, légère, facile.
Jacques Garcia, décorateur.
Elle abandonne tout ce code de la mode, finalement, qu'on connaîtra avant avec Madame de Pompadour.
Alors, elle adorait les taffetas d'Italie, les taffetas clairs, les taffetas blancs, les taffetas rayés, roses et verts, par exemple.
Et donc, elle contribue à rendre le style français, le style vestimentaire, pour les femmes beaucoup moins sévère. Elle introduit le naturel à la cour de Versailles.
Cette simplicité luxueuse n'empêche pas la favorite de se distinguer également par une petite touche d'extravagance.
Elle a compris ce que ses cheveux pouvaient apporter lorsqu'ils étaient noués d'une certaine façon, lorsqu'ils étaient coiffés, frisés.
Il se fait inventer des coiffures absolument fantastiques, pyramidales, des coiffures à la pouffe, au sentiment, etc. Enfin, il faut parfois se pencher sous les portes pour pouvoir se déplacer. Dès qu'elle apparaît, évidemment, le regard se porte sur elle parce que partout où elle va, elle est la plus belle.
Michel de Decker, historien.
Et elle s'intègre parfaitement dans cette société de cour, avec ses extravagances, avec ses coiffures. Elle est tout de suite à l'aise dans ce milieu.
Madame du Barry a également sa petite levrette blanche qu'elle adore, la petite Mirza, qui se promène dans ses appartements avec un merveilleux collier de diamants autour du cou, collier qui a été offert par le roi de Suède, Gustave.
Louis XV est amoureux, et la passion qu'il éprouve déclenche chez lui, malgré une réputation d'avarice bien établie, une véritable frénésie de cadeaux.
On parle de 300, 400, 500 000 livres, c'est-à-dire le prix d'un château, chaque mois.
Jean-Christian Petit-Fils, historien.
C'est absolument extravagant, même Madame de Pompadour n'a pas eu un tel pactole.
Et elle fait encore des dettes, elle veut des équipages, elle veut des œuvres d'art, elle est absolument insatiable.
Et pourtant, elle ne demande rien, elle ne réclame pas. Dès qu'il peut lui apporter quelques milliers de livres, il le fait. Et il est heureux, véritablement heureux. Et elle, avec les moyens qui sont les siens, de temps en temps, elle lui fait des petits cadeaux également. Elle lui offre une petite robe d'intérieur. Voilà, c'est un petit couple tout à fait charmant.
Il veut devenir un roi de contes de fées avec la du Barry. Il lui a donné énormément de bijoux.
On l'a décrit ruisselante de diamants. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui aime les bijoux et qui aime les porter. Et on sait qu'elle avait à peu près presque 2 millions de livres, ce qui est énorme, en pierreries.
Elle est vraiment comme une reine du point de vue de la vie.
Jusqu'à présent, Louis XV n'a connu que des femmes de cour. D'abord sa femme, la reine Marie Leszinska, mais qui assez rapidement, après le cinquième enfant, lui ferme la porte de sa chambre à coucher. Et puis ensuite, cette relation très longue qui dure plus de 20 ans avec Madame de Pompadour, mais qui n'est pas une relation qui, sur le plan sexuel, est une relation très épanouissante, puisque Madame de Pompadour était d'une certaine façon frigide et donc ne le satisfaisait pas. D'où la pratique des petites maîtresses.
Afin d'assouvir les besoins sexuels du roi, la Pompadour avait eu l'idée du parc aux cerfs, un hôtel particulier, discret, abritant de très jeunes filles sans aucune expérience de l'amour.
Et par conséquent, quand il connaît la du Barry, qui elle a plus de 25 ans et puis qui a un passé galant extrêmement marqué, eh bien, il est bouleversé.
Madame du Barry est une professionnelle. Elle connaît très certainement l'art des caresses. Elle a eu avec elle les plus grands libertins qui lui ont appris quantité de choses.
Elle apporte des bordels, il faut le dire, toutes les pratiques que la cour, qui est pourtant assez ouverte sur ce plan, ne connaît pas.
Elle prend tous les jours un bain parfumé et elle se parfume le sexe avec un ensemble de parfums, ce que l'on appelle le baptême ambré.
Le roi, est enchanté et il s'aperçoit qu'il n'est pas si vieux que cela.
Elle sait lui faire oublier qu'il est sexagénaire. Et il ira même jusqu'à dire, à avouer à un de ses amis qu'elle est la seule femme à savoir faire le saut de l'anguille dans son lit. C'est une chose remarquable que de faire le saut de l'anguille.
Et Louis XV est un dépressif, un timide, un homme qui n'a pas confiance en lui. Donc elle va lui donner cette confiance.
Et elle est d'un parfait naturel avec le roi, alors que les maîtresses précédentes avaient toujours considéré le roi comme le roi, et elle le considère comme un homme.
Même si le roi est veuf, et là, on pourrait dire qu'il est libre de faire ce qu'il veut, s'afficher avec une Madame du Barry est absolument inadmissible pour la plupart des courtisans.
Raphaël Masson, conservateur au château de Versailles.
L'immense majorité n'accepte pas la liaison officielle du roi avec Madame du Barry.
Dans les cours étrangères, on dit que le roi s'abandonne à la luxure avec une prostituée. Mais comment le roi est-il tombé si bas ?
Contrairement à toutes les autres maîtresses royales qui soit viennent de grands milieux aristocratiques, soit de milieux très influents comme la Pompadour, Madame du Barry, elle est d'une origine extrêmement modeste, donc elle n'a aucun soutien.
Les femmes de la cour, elles jalousent la comtesse parce qu'elle est belle, jalousent aussi la comtesse parce qu'elle a la place que beaucoup auraient souhaité avoir.
On a l'impression d'une cour fastueuse, merveilleuse, avec des fêtes, des feux d'artifice, des mariages princiers extraordinaires. Tout est beau. En réalité, on est dans une guerre constante de clans, de luttes, des jeux d'influence, de rivalité. Il faut qu'elle fasse très attention parce que tout, évidemment, s'observe. Madame du Barry va très facilement intégrer ce jeu.
Au nombre des ennemis irréductibles de Jeanne, il faut compter les filles du roi, outrées par la conduite de leur père, ou encore le puissant duc de Choiseul, ancien protégé de la Pompadour. Tous ont les yeux rivés sur l'appartement de Madame du Barry.
Toute la journée, elle attend la visite du souverain, qui prend l'habitude de vivre une bonne partie de son temps chez elle.
Là, c'est un décor intime. Il aime cette chaleur, il aime se retrouver avec quelques courtisans, avec sa maîtresse. C'est un lieu très, très filtré, tout le monde ne peut pas entrer.
Tous les soirs, la favorite reçoit un petit cercle d'intimes dans ses appartements des combles du château.
Le grand salon de l'appartement de Madame du Barry, et c'était vraiment là son lieu de réception. Il faut imaginer cette pièce encombrée d'une multitude de mobilier, de chaises, de tables volantes, etc. Le mot d'ordre est toujours distraire le roi. Louis XV est un roi, c'est un homme qui s'ennuie. On le distrait par des concerts, par des fêtes improvisées. Il faut l'étourdir par une sorte de conversation permanente, et Madame du Barry excelle là-dessus.
Elle est gaie, elle est aimable et c'est une femme qui veut s'amuser, mais s'amuser avec une certaine grâce et qui n'est jamais vulgaire.
Louis XV et la du Barry sont inséparables. Le roi, parfois, trouve que les journées sont trop courtes parce qu'il ne la quitte pas.
Et au fur et à mesure que le temps passe, il reçoit ses ministres dans l'appartement de sa maîtresse, si bien que Madame du Barry est en relation permanente avec tous les plus grands personnages du royaume.
Et beaucoup de décisions sont prises au milieu de la chienne, des courtisans qui viennent voir Madame du Barry, de ses fournisseurs, dans un bric-à-brac assez savoureux.
Parmi les habitués de l'appartement, le chancelier de Maupoux, le duc d'Aiguillon et l'abbé Terray. Un triumvirat énergique qui s'efforce de mettre en place une politique de réforme et qu'on surnomme le ministère du Barry.
On a parlé de Cotillon III à propos de ce ministère, on a parlé des Barriens, d'un ministère barien. C'est prêté à Madame du Barry un rôle politique qu'elle n'a jamais joué. Elle n'est pas du tout celle qui tire les fils, qui manipule par derrière.
Elle savait que Madame de Pompadour avait été une mauvaise conseillère de Louis XV et que Louis XV lui en voulait finalement, secrètement, pour certains de ses conseils.
Elle a nécessairement, en tant que maîtresse du roi et en tant que favorite, un rôle, et c'est un rôle limité au jeu de la cour, aux grâces, aux faveurs, aux rémunérations.
Et on sait qu'à deux ou trois reprises, elle obtient la grâce de personnes qui sont condamnées à mort, l'une pour infanticide mal élucidé, une autre fois pour un déserteur, et à chaque fois, le roi accède bien volontiers à sa demande.
Elle a pu, néanmoins, sur le plan psychologique, avoir une influence en donnant de la confiance à Louis XV. Ce qu'on va appeler la révolution Maupoux de 1771, c'est le grand moment du règne. C'est le moment où Louis XV décide de réaffirmer son autorité, sa souveraineté, et procède à des réformes de grande ampleur. C'est le moment où on crée la justice gratuite, c'est le moment où on décide de réformer totalement l'organisation judiciaire du royaume, Et peut-être Louis XV n'aurait-il pas été capable de mener à bien cette réforme s'il n'avait pas eu le soutien psychologique, pas du tout politique, mais psychologique, de Madame du Barry.
Elle ne veut pas régner, gouverner ou aider le roi à gouverner. Non, ce qu'elle veut, c'est aimer le roi, et elle veut que le roi l'aime.
Et pour amuser le roi, Jeanne peut compter sur son petit serviteur indien, le célèbre Zamor, âgé de 8 ans seulement.
Ce petit garçon, elle va vraiment s'en occuper avec beaucoup d'affection.
Et c'est un enfant qui a compris qu'il fallait être drôle, qu'il fallait que la vie soit facile, que l'on rit beaucoup.
Elle va le costumer. Alors, il y a un côté un peu marionnette, évidemment. On décrit certains de ses costumes de soie rose avec des plumes dans les cheveux.
Et il va être ce petit garçon qui va casser des vases précieux sans être puni.
Zamor est un plaisantin. Il voit un tel coiffé d'une vieille perruque poudrée, il la lui arrache. Le roi Louis XV va le nommer gouverneur de Louveciennes, histoire de s'amuser.
C'est un petit garçon qui est fasciné, raide amoureux de cette dame à côté de laquelle il va vivre.
Ève Ruggieri, romancière.
Elle aurait certainement eu aimé avoir un enfant du roi, elle n'en avait pas, et elle va se trouver avec un petit garçon tout fait, et il vit dans ses jupons.
Contre toute attente, et malgré tout ce qui les sépare, Jeanne a réussi à tisser avec le roi une relation comme il n'en avait jamais connue avant elle.
Elle va apparaître comme un petit rayon de soleil, comme une fée avec une baguette magique, et tout change parce qu'elle est fraîche, parce qu'elle est de bonne humeur, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est souriante.
Il se sent aimé pour lui-même, pas seulement comme roi, le roi dont on attend tout. Dans cette réciprocité, eh bien, il y a quelque chose de profond qui le touche.
L'appartement de Madame du Barry est encore aujourd'hui l'un des endroits les plus protégés du château de Versailles que seul un petit nombre de privilégiés a l'occasion de visiter chaque année. À Versailles, le passé de la favorite fait l'objet des rumeurs les plus folles. Je vous propose de mener une petite enquête afin d'en savoir davantage sur la jeunesse de celle qui s'appelait alors Jeanne Bécu.
Dès sa naissance, le 19 août 1743, dans un milieu très modeste, le destin de la petite Jeanne Bécu semble placé sous le signe de Vénus.
C'est la fille d'une couturière de Vaucouleur en Lorraine et qui avait eu des faiblesses pour un moine, frère ange de Vaubernier.
Et c'est pour ça que la petite du Barry sera appelée l'ange assez régulièrement.
Visiblement, la beauté s'est transmise de mère en fille, puisque la mère de Madame du Barry semble avoir été une assez belle personne.
Anne Bécu a une réputation de femme de mauvaise vie. Elle aura plusieurs aventures, elle aura plusieurs enfants de pères différents.
Compromise par sa réputation de femme volage, la mère de Jeanne doit quitter Vaucouleur pour Paris. Elle devient la cuisinière d'un riche financier qui se soucie de l'éducation de la petite Jeanne.
Et le protecteur de sa mère la fait entrer dans un couvent où se trouvaient des filles de la bourgeoisie, de la noblesse pauvre.
Et donc, elle va passer un certain nombre d'années chez les sœurs, donc recevoir une éducation de base, savoir écrire, lire, danse, etc. Donc, elle a une éducation, je dirais, bourgeoise.
Elle a très vite compris comment on pouvait, eh bien, savoir se tenir.
Lorsqu'elle sort du couvent, 9 ans plus tard, Jeanne n'est encore qu'une adolescente. Sa mère s'est mariée, mais le couple ne gagne pas assez pour l'assumer. Jeanne n'a donc pas le choix, elle doit travailler.
Elle se retrouve petite vendeuse ambulante dans les rues de Paris. C'est un moment très difficile pour elle, parce que la rue, c'est un univers très dur pour les jeunes filles à l'époque.
Elle a pour elle la beauté, mais aussi c'est aussi un danger, c'est qu'elle attire beaucoup de convoitises, beaucoup d'hommes qui tournent autour d'elle.
Le destin d'une jeune fille ravissante qui n'est pas née, et si ses parents ne lui font pas épouser un garçon de son milieu, elle est vouée à la galanterie.
Au milieu du XVIIIe siècle, ce que l'on appelle la galanterie, c'est le monde de la haute prostitution.
Heureusement pour elle, Jeanne rencontre alors un jeune coiffeur qui l'attire très vite de ce mauvais pas.
Elle a appris à friser les cheveux, à les boucler, à les tresser, à en faire tout ce qu'il fallait pour mettre en valeur le visage des femmes et le sien en particulier.
Le jeune coiffeur tombe immédiatement amoureux d'elle, il la comble de présents.
Elle se rend compte que sa beauté est exceptionnelle, qu'on la désire et qu'elle exerce sur les hommes un pouvoir du fait de son charme.
Malheureusement pour lui, il la comble un peu trop et lui-même fait faillite. Et la mère de Lamet est furieuse.
Madame Lamet a traité la jeune Jeanne de sale petite pute.
Jeanne n'a que 15 ans et c'est la première fois qu'elle est accusée de se prostituer. À Paris, près de 30 000 filles font commerce de leur charme, de la raccrocheuse de trottoir à la galante de salon. Un chiffre énorme qui donne lieu à des initiatives pour le moins originales.
Ce petit livre est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un guide Michelin de la prostitution parisienne.
Michel Delon, historien.
Sous ce petit format, on trouvait la liste des filles avec deux, trois caractéristiques physiques et leurs particularités et leurs prix. Rose Neville, Faubourg Montmartre, blonde sensuelle, figure ordinaire, à pas rebondi, 22 ans, 12 livres. Miller, rue Mélée numéro 16, l'aideron adorable, honnête et désintéressé, on s'arrange à l'amiable. Quand on parle des prostituées, hein, parfois il y a l'adjectif qui apparaît, elle est propre. Alors ça veut dire qu'elle n'est pas contaminée par une maladie vénérienne et qu'elle se lave. Faut pas oublier que putain, c'est celle qui pue.
Pour l'heure, Jeanne échappe à ce destin. Elle devient la femme de chambre des Lagarde, une famille de financiers.
Là, elle va aussi se dégrossir, elle va apprendre les belles manières.
Elle va s'initier notamment au théâtre et elle va être prise d'ailleurs en amitié par la mère de famille et par certains de ses enfants.
Elle a vécu dans le luxe et elle a pris là véritablement le goût du luxe.
Un nouveau malheur survient puisque une des domestiques, probablement par jalousie, l'accuse d'avoir eu une aventure avec un des fils Lagarde. Elle est renvoyée.
Et à ce moment-là, elle est prise comme vendeuse dans une boutique de mode où elle se trouve très heureuse parce que elle manipule à longueur de journée les plus beaux colifichets que l'on puisse imaginer pour les femmes. Elle rencontre également toutes les femmes les plus élégantes de Paris et cela lui donne des idées et elle-même commence à se parer magnifiquement.
Donc là, effectivement, elle va être plus en vue. Hein, les demoiselles de magasin à cette époque-là, on sait que certaines arrondissaient les fins de mois en écoutant les messieurs qui venaient les voir.
La beauté de la jeune vendeuse attire également l'attention d'une femme d'affaires avisée, la Gourdan, également surnommée la petite comtesse, véritable Madame Claude du siècle des Lumières.
Quand elle voit que cette demoiselle est assez frivole et très belle, eh bien la Gourdan profite de l'occasion pour lui dire qu'elle pourrait avoir une existence beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, connaître des gens bien placés. Elle lui dit des magistrats, des diplomates. Évidemment, Jeanne, qui vient d'un milieu très modeste, est très séduite par cette proposition. Et elle décide de rentrer dans cet univers de la galanterie parisienne.
Elle commence véritablement à gagner sa vie à la sueur de ses reins, il faut le dire.
Quelques soirs par semaine, Jeanne fait donc ses débuts dans ce nouveau métier qui obéit à des règles bien particulières.
Alors, il y a peu de filles qui véritablement habitent la maison de la Gourdan. Il y a pas mal d'externes, c'est-à-dire par exemple des demoiselles de magasin.
On utilise des filles à passade et à partie. C'est le terme qui est utilisé pour ces prostituées de luxe. C'est-à-dire qu'on les convoque pour une soirée, pour une nuit, et puis elles rentrent chez elles.
Il arrive aussi que ces grandes maquerelles demandent à ces jeunes femmes de venir dans ce qu'on appelle les petites maisons, c'est-à-dire des maisons de plaisir, qui appartiennent à de grands seigneurs.
L'essentiel du temps, on vous invite à un dîner ou à une soirée. Et puis, les galants, au fur et à mesure de la soirée, deviennent de plus en plus entreprenants.
Cela se termine par des parties qui sont des parties carrées ou des parties à plusieurs où on se repasse les partenaires.
La Gourdan n'est pas la seule à fournir ses soirées libertines en chair fraîche. Au sein de la noblesse de cour, un personnage à la réputation sulfureuse est prêt à tout pour faire fortune. Cet homme, c'est Jean du Barry, surnommé le Roué.
Le Roué, c'est le débauché violent et sans scrupules.
C'est un homme très laid, il est rustaud, il est grossier, mais il a énormément d'aplomb et d'énergie.
Il a plutôt le style maquignon, et c'est le seul aristocrate qui brocante, comme on dit, des filles, c'est-à-dire qui a des filles à son service et qui les revend pour une nuit, pour deux jours, pour trois jours, à un certain nombre de grands seigneurs.
Lorsque ses pensionnaires ne suffisent pas à répondre à la demande, il n'hésite pas à puiser dans le catalogue de maisons renommées, comme celle de la Gourdan. C'est probablement de cette façon qu'il fait la connaissance de la belle Jeanne.
Du Barry, comme tous les ruffians de son espèce, ne se présente pas immédiatement comme un proxénète, évidemment. Il la séduit, il est peut-être d'ailleurs lui-même séduit par la beauté de Jeanne.
Elle a été émerveillée, bien que l'homme n'ait pas été spécialement séduisant, mais enfin, il devait avoir aussi des talents qui étaient des talents cachés qu'elle lui reconnaissait très certainement.
Et à ce moment-là, cas classique dans le proxénétisme, eh bien, il lui dit que si elle veut être gentille avec lui, il faut commencer à offrir ses charmes à d'autres seigneurs.
Si le parcours de Jeanne Bécu dans l'univers de la galanterie est bien connu, c'est grâce au rapport circonstancié de Louis Marais, un inspecteur en charge de la police des mœurs. Dans son journal précieusement conservé à la Bibliothèque nationale, Jeanne Bécu apparaît pour la première fois sous le pseudonyme de Beauvarnier.
C'est le 15 décembre 1764, et il dit « Le marquis du Barry a fait paraître en loge, lundi dernier à la Comédie italienne, la damoiselle Beauvarnier, sa maîtresse. C'est une personne de l'âge de 19 ans, grande, bien faite, l'air noble et de la plus jolie figure. Certainement, il cherche à la brocanter avantageusement. »
Charles-Éloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de France.
Et on sait que Louis Marais, non seulement était lui aussi un client, donc il était très bien informé, mais il payait aussi des informateurs, il payait des prostituées, des mères maquerelles pour avoir des renseignements de première main. Donc, a priori, ces rapports sont exacts.
Plus encore que sa beauté, c'est la personnalité de la jeune femme qui émoustille irrésistiblement tous ceux qui la croisent.
Contrairement aux autres filles, elle avait un air de douceur et d'honnêteté qui faisait son charme, qui la distinguait.
Elle a un air d'innocence absolue. On lui donnerait le bon Dieu sans confession.
Du Barry connaît tout le monde à Versailles, pratiquement. Donc, il attire tous ces gens-là, tous les Versaillais affamés de chair fraîche, pour leur présenter sa petite pensionnaire, la petite Jeanne.
Et c'est chez Du Barry que vont commencer à s'organiser les rencontres avec un certain nombre de membres de la cour, de grands seigneurs parisiens.
Le carnet d'adresses de Jean du Barry compte certains des plus grands noms de la cour. Le prince de Ligne, le duc de Fidjam ou encore le duc de Richelieu, maréchal de France et petit-neveu du cardinal.
Louis XV, qui est son ami, disait de lui « Monsieur le maréchal de Richelieu est une vieille connaissance, on l'a retrouvé un jour sous le lit de ma mère. »
À plus de 70 ans, il est outrageusement maquillé. Et on dit qu'il a l'air un peu d'une vieille poupée desséchée.
C'est vraiment une vieille chose, mais qui ne pense qu'à ça, qui est obsédé par le sexe? Il a quand même conservé une garçonnière tendue de toile rouge et de miroir avec le fameux siège à la Fronsac. Un siège à bascule sur lequel la jolie dame s'installe et hop, est consommable immédiatement.
Alors, le duc de Richelieu trouve Jeanne parfaitement à son goût et elle lui a donné tous les plaisirs possibles et lui, c'est un homme qui sait depuis longtemps ce que c'est que le plaisir.
Sous le nom de Mademoiselle Lange, la réputation de Jeanne est désormais bien établie dans le monde de la galanterie. Et le roué du Barry, attiré par l'appât du gain, en veut toujours plus. L'inspecteur Marais finit même par s'en inquiéter.
Marais note un peu quelle est leur vie quotidienne et apparemment, entre eux, ça va déjà moins bien. Puisqu'il dit « La vie que mène le comte du Barry avec la demoiselle Beauvarny est infâme, c'est exactement sa vache à lait. Dans l'intention de se procurer des protections et de l'argent, il la loue à tout venant, pourvu toutefois que ce soit gens de qualité ou à argent. » Et Marais conclut son rapport en disant « Quelle abominable vie !» Et c'est quelque chose qu'il ne dit quasiment jamais. C'est donc vraiment que là, du Barry l'a fait travailler à un rythme qui est peut-être insoutenable.
Elle en souffre. Elle est consciente que c'est une situation plutôt périlleuse. Elle n'a pas véritablement de liberté, puisque Jeanne enchaîne les passes, les rencontres avec les grands seigneurs.
Elle est quand même très fatiguée à force de coucher sans arrêt avec les uns, avec les autres. Et beaucoup de ces messieurs sont atteints de la vérole, c'est-à-dire de la syphilis.
Alors on dit qu'il y a dans cette civilisation poutanesque des habitudes pour se prévenir contre telle ou telle maladie.
Les procédés de l'époque étaient vraiment rudimentaires. Les hommes prenaient quelquefois des précautions en mettant ce que l'on appelle des redingotes d'Angleterre, les ancêtres des préservatifs.
Par le hasard peut-être, par la chance, par la pratique, Madame du Barry n'a jamais été infectée.
C'est un miracle qu'elle n'ait pas eu de maladie vénérienne et c'est un miracle, c'est incroyable qu'elle n'ait pas eu d'enfant.
Victime du rythme imposé par du Barry, Jeanne finit par craquer et décide de quitter son protecteur.
Sans du Barry, eh bien, elle n'a pas les mêmes seigneurs et elle n'arrive pas à vivre seule de ses charmes. Elle revient donc avec du Barry et il continue de la brocanter, mais avec, disons, plus de soin, plus de douceur.
Du Barry se rend compte effectivement qu'elle travaille trop, qu'elle a une mauvaise santé, donc très bien. Il la place au milieu d'un salon, elle va tenir le salon, elle va recevoir du monde, faire la conversation.
C'est un petit salon littéraire dans lequel on vient volontiers, puisqu'elle va même avoir échangé certaines correspondances avec Voltaire en personne.
Bien formée par Richelieu et Du Barry, Jeanne est désormais au sommet de son art. Devenue l'une des courtisanes les plus en vue de la capitale, ses protecteurs commencent à voir en elle un joyau digne des fastes de Versailles. Vous venez d'écouter Secret d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Secret d'Histoire sur les réseaux sociaux. Secret d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production pour France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demot. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Isabelle Benadj.